Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le jeudi 20 novembre 2025 et vous écoutez votre programme en français sur la radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et on commence avec le journal. Les titres de ce jeudi 20 novembre 2025. L'Australie n'accueillera pas le sommet international sur le climat en 2026. Aux États-Unis, le Congrès vote pour la publication du dossier Epstein. De nouvelles frappes mortelles à Gaza malgré le cessez-le-feu. Et enfin, l'Italie n'a pas à qualifier pour le mondial de football. Les joueurs devront passer une nouvelle fois par les barrages. On en parle dans le journal des sports de Christophe Mallet. À son grand regret, l'Australie n'accueillera pas la COP31 à Adélaïde, annonce faite par Anthony Albanese, alors que le pays voulait représenter les îles du Pacifique et leur vulnérabilité face au changement climatique. C'est désormais la Turquie qui devrait donc organiser ce sommet mondial sur le climat en 2026. Le Premier ministre précise que cette décision a été prise en échange de plusieurs concessions, dont la prise par l'Australie du rôle de président des négociations de la COP lors de la conférence.
Our bid was Australia and the Pacific co-hosting. So what has been agreed is that Chris Bowen, Australia, will be COP president for negotiations. Mm-hmm. The conference and the COP presidency will go to Turkey, and there'll be a pre-COP meeting, particularly focusing on climate financing in the Pacific.
Voilà, c'était Anthony Albanese. Selon les règles de l'ONU, le pays hôte doit être désigné par consensus et non par vote. Si aucun consensus n'est trouvé pour la Turquie, eh bien la COP31 serait organisée en Allemagne. C'est une première mondiale. En Australie, les adolescents sont prévenus. Il ne leur reste plus que 2 semaines avant que leurs réseaux sociaux ne soient désactivés. C'est le 10 décembre que rentre en vigueur la nouvelle loi qui interdit aux moins de 16 ans d'accéder à Instagram, Threads, Facebook, YouTube, TikTok ou encore X. Le jeune Betos, qui a seulement 10 ans, s'est confié au micro de nos collègues de SBS Arabique et dit qu'il se prépare déjà à une vie sans réseaux sociaux.
I feel like sad but like happy at the same time. And yeah, like I'll be like happy, sad but as well. It's like a good, like it's a good thing. I'll be like singing, like music and playing like more sports. I'll be with my cousins and everything.
On le disait en titre, aux États-Unis, le Congrès, dominé pourtant par les Républicains, a voté presque à l'unanimité pour obliger la publication des dossiers de l'affaire Epstein. Après s'être longtemps opposé à leur divulgation, Donald Trump a finalement changé de position sous la pression conjointe des démocrates et des républicains. La proposition de loi doit désormais lui être envoyée pour promulgation. À la sortie du vote, la représentante démocrate Rashida Tlaib a estimé qu'il n'y aurait désormais plus de protection pour les agresseurs. On l'écoute.
Today, despite all the giant cover-up attempts by this administration and this Speaker of the House, we will vote to release all the Epstein files. To be clear, there is no protection for pedophiles, no protection for the rich and powerful men of either party who participated, who turned a blind eye, who winked and grinned while witnessing the horrific abuses of young children.
Donald Trump, qui dans le même temps et dans un autre registre, affirme qu'il va s'employer à aider à mettre fin à la guerre civile au Soudan après avoir été sollicité par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Le conflit qui oppose l'armée soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide a provoqué une famine et le déplacement de plus de 14 millions de personnes. Selon les estimations américaines, il aurait déjà fait plus de 150 000 morts. Donald Trump indique que le prince héritier lui a assuré qu'obtenir la fin de cette guerre serait son plus grand succès diplomatique, je cite. Le président qui met en avant la fin de plusieurs conflits depuis son retour à la Maison-Blanche, on l'écoute.
I settled 8 wars and His Majesty would like me to do something very powerful having to do with Sudan. It was not on my charts to be involved in that. I thought it was just something crazy and out of control. But I just see how important that is to you and to a lot of your friends in the room. Sudan, and we're going to start working in Sudan. I didn't think that that was one that was going to be so easy to do, but we're going to start working.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté un projet de résolution présenté par les États-Unis qui soutient le plan du président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Le texte autorise également la mise en place d'une force internationale de stabilisation, une étape importante selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. De son côté, le Hamas réaffirme qu'il ne déposera pas les armes, mais selon l'ambassadeur américain à l'ONU, Mike Waltz, cette résolution doit permettre de réduire au moins son influence.
This resolution today is just the beginning. An adoption of resolution today demonstrates the overwhelming support for the president's vision for a stable Gaza where Palestinians determine their own destiny, free from terrorist rule and violence. And under President Trump's bold leadership, the United States will continue to deliver results alongside our many partners.
Dans le même temps, et malgré le cessez-le-feu en vigueur, de nouvelles frappes israéliennes ont fait plus de 25 morts cette nuit à Gaza. Le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bazal, parle d'une nette escalade, affirmant que des habitations et des bâtiments publics ont été visés dans toute la ville.
Israeli occupation forces are clearly targeting and escalating operations in the Gaza Strip. Multiple locations in the Strip, particularly in Gaza City, have been targeted. The latest strike was the Augas building in the Zaytun neighborhood at Askela Road, directly with a warplane with 2 rockets. There are 3 martyrs and more than 25 injured arrived at Al-Ahli Arab Baptist Hospital, including children, women and elderly.
L'armée israélienne affirme que ces frappes répondaient à des tirs du Hamas qui auraient violé en premier la trêve en place depuis près de 6 semaines. De part et d'autre, chacun accuse l'autre camp de compromettre le cessez-le-feu. Le nord de l'Australie se prépare au cyclone Fina. Le bureau de météorologie prédit des vents violents jusqu'à 130 km/h et des inondations. Point de soulagement, Fina devrait apparemment passer au nord de Darwin plutôt que sur la ville. Mais les cyclones restant imprévisibles, les experts appellent les communautés côtières et insulaires à se préparer coûte que coûte. On écoute Jonathan Howe, il est météorologue.
A tropical cyclone Fina has been named off the coast of the Northern Territory. On Thursday morning, it is expected to be a Category 2 system, and through the day, it will bring increasing wind and rain to parts of the top-end coastline. So if you are in that part of the country, do keep across the latest forecasts and warnings, and do watch our dedicated severe weather update video.
Et pour le reste de la météo sur l'Australie cet après-midi, Perth également frappé par des vents violents, il fait 28 degrés, nuages et 21 degrés à Adélaïde, nuages également mais 16 petits degrés à Melbourne, à Canberra des averses comptaient 27 degrés, 24 à Sydney, 30 à Brisbane, il fait 32 degrés à Cairns où les nuages sont prédominants aujourd'hui. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez sur SBS French, votre émission se poursuit. Et tout de suite, c'est le journal des sports, il est signé Christophe Mallet.
Journal des sports et on débute ce journal avec du football et le reste des qualifications pour la Coupe du Monde qui se joue cette semaine pour cette Coupe du Monde donc qui aura lieu en mois de juillet, je vous rappelle, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Je vous rappelle également que cette Coupe du Monde sera gratuitement disponible sur SBS. Tous les matchs à l'antenne de SBS, eh bien, vous verrez certaines équipes et d'autres, on n'est pas encore tout à fait sûr, notamment l'Italie après une très lourde défaite 4 à 1 contre la Norvège en Italie à San Siro dans le stade mythique de Milan. Les Italiens donc battus qui devront une nouvelle fois passer par les barrages. Je vous rappelle que l'Italie n'a pas participé à une Coupe du Monde depuis 2014. C'était au Brésil et les supporters italiens sont plutôt déçus. On les écoute.
On va le jouer ce barrage et on prouvera qu'on mérite d'aller à cette Coupe du Monde.
La Norvège en deuxième mi-temps a fait exactement ce qu'aurait dû faire l'Italie.
En deuxième mi-temps, l'Italie a complètement disparu, ça a été embarrassant. On ne peut vraiment pas aller à la Coupe du Monde de cette façon.
Que dire? C'est vraiment dur de perdre 4-1 à domicile. Quoi qu'il en soit, on lâche rien.
En première mi-temps, on peut dire qu'on a plutôt bien joué, mais notre approche en seconde période a été totalement ratée. On a perdu le ballon et commis des erreurs grossières. Maintenant, que devons-nous faire? Eh bien, encourager notre équipe pendant les séries de barrages.
Ça a été vraiment une expérience lamentable.
C'était nul. Vraiment nul. Une humiliation totale, avec un final affreux.
Supporters italiens après la défaite donc 4 à 1 de l'Italie face à la Norvège. Quelqu'un qui était tellement déçu également, c'est le journaliste de RFI, Matteo Cioffi. Il était dans le stade.
Il s'est passé plein de choses. Vraiment, j'ai eu une chance incroyable à être présent à ce match inoubliable. Ouais, un cauchemar vécu avec les yeux ouverts. Alors, je suis arrivé à Saint-Cyr. Je me suis tout d'abord étonné par le nombre de tifosi qui étaient présents pour un match. Ouais, 70 000, oui. Donc, c'était un match qui, je répète, au-delà du score utopique de 9 à 0, ne pouvait rien changer au destin des Azzurri. Mm-hmm. A signalé aussi une forte présence des supporters norvégien très bruyant, ils chantaient comme des fous. Et je suis sûr qu'ils croient que ça va être la grande surprise de cette prochaine Coupe du Monde. Donc le stade était plein, coup d'envoi du match. Après seulement 10 minutes, l'Italie a ouvert le score, suscitant une énorme joie chez les spectateurs qui ont acclamé l'auteur du but, Pio Esposito, 20 ans, qui représente la grande promesse du foot italien, comme on l'espère. La première mi-temps a donc été salué par des applaudissements et de Viva l'Italia de tous les côtés. En seconde période, cependant, quelques minutes à peine ont suffi à replonger les supporters dans la crainte. Et au final, la déception était vraiment palpable. 4-1, ça a été une sévère raclée. Et pourtant, en sortant du stade, vous l'avez entendu, tous les tifosi, ils étaient tous fâchés. Hein, mais ils m'ont assuré qu'ils ne trahiront pas la nationale et qu'ils devraient passer par les barrages. Forza Azzurri jusqu'à la fin et au-delà de tout. Et quand je le dis au-delà de tout, c'est vraiment au-delà de tout parce que cette squadra millénaire des Italiens a rude épreuve.
Matteo Cioffi donc pour RFI, l'Italie qui devra donc passer par les barrages. Je vous rappelle que sur les deux dernières Coupes du Monde, eh bien, l'Italie s'est trouvée dans l'exacte même position et n'avait pu sortir donc de ces groupes de barrages. On souhaite bonne chance à la squadra Azzurra. L'entraîneur d'ailleurs de cette équipe italienne, Gennaro Gattuso, est beaucoup décrié. Il a trouvé une défense dans l'entraîneur de l'OM, son compatriote Roberto De Zerbi.
Période difficile, mais questo lo dice la...
Que le moment soit très compliqué pour nous, c'est un fait, et le résultat le démontre, mais ça ne sert à rien de discuter des causes ou d'envisager déjà des projets pour le futur. La seule chose qui compte maintenant, c'est de rester concentré et d'aller à la Coupe du Monde. Gattuso est vraiment la personne adéquate. En ce moment, je ne pense pas qu'il y ait des choix plus adaptés pour la sélection.
Roberto De Zerbi a noté que les deux hommes avaient travaillé ensemble sur les bancs de l'OM il y a quelques temps. Du côté des qualifiés, eh bien, il y a deux belles surprises. Tout d'abord, eh bien, Haïti qui a battu le Nicaragua 2 à 0. Haïti qui donc peut réserver les billets pour aller à la Coupe du Monde de cet été. On écoute l'entraîneur d'Haïti, le français Sébastien Migné.
C'est une nouvelle aventure. Certains me pensaient un peu fou quand j'ai accepté ce défi. Et puis, ça se termine en apothéose, donc ça, c'est formidable. Parce que le plus dur pour mon équipe, c'est d'arriver à gérer leurs émotions. J'ai des garçons qui ne sont pas forcément rompus à des matchs de ce niveau-là. Donc, il fallait gérer tout ça. Sur la qualité, je n'ai pas de doute. On a un groupe qui peut embêter, en tout cas sur un match, pas mal d'équipes. Maintenant, gérer cette pression qui traversent tout un pays. Pour eux, c'était un petit peu difficile. On a eu d'ailleurs les pieds qui brûlaient un petit peu, j'ai trouvé, en cours de match. Une fois qu'on a ouvert le score, on a eu du mal dans la gestion. J'ai un groupe qui me surprend de rassemblement en rassemblement. Et on était quasi morts il y a un rassemblement de ça. Et on a su flancher, mais pas totalement. On a courbé les chines, mais ça ne s'est pas rompu, quoi. On était toujours là. On a fait preuve de résilience.
Sébastien Minier, l'entraîneur donc de l'équipe d'Haïti qui sera présente à la Coupe du Monde. Une autre équipe qui sera également présente, ce sera le petit pousset de cette Coupe du Monde, la toute petite île, le Curaçao. Eh bien, s'est qualifié pour cette Coupe du Monde. Ce sera le plus petit pays présent dans la compétition. Une autre belle victoire, c'est celle de l'Écosse. L'Écosse qui s'est qualifiée 4-2 face au Danemark. Et très très belle victoire en terre écossaise. On écoute l'entraîneur de cette équipe, Steve Clark.
Ça fait un bien fou. Avec toute cette pression, tout ce stade qui voulait que l'on se qualifie pour la Coupe du Monde, avec toutes ces émotions, vous êtes content que cela se termine. Quel groupe de joueurs fantastiques! Ils n'ont jamais abandonné. Je le répète depuis longtemps, à quel point ils sont bons et déterminés pour faire briller leur pays. Je ne peux pas être plus heureux pour mon équipe. Je suis aux anges.
Steve Clark a noté que l'Écosse n'a pas disputé de Coupe du Monde depuis, tenez-vous bien, 1998. Et oui, très beau retour, donc on peut comprendre que les Écossais soient très contents. On continue sur le football et il y a quelques temps, il y a eu un match très important, symbolique, mais très important, entre le Pays Basque et la Palestine, match amical, le reportage de Julien Coquelrum.
Une première dans l'histoire, jamais encore une équipe de foot masculine de Palestine n'avait joué sur le sol européen. C'est désormais chose faite, puisqu'hier soir, la sélection palestinienne a affronté une sélection du Pays Basque à Bilbao, en Espagne, dans un stade plein à craquer. Score final 3-0 pour les Basques, mais le résultat n'importait que peu comparé au poids du symbole, c'est ce que nous dit Dima Saïd. C'est la porte-parole de la Fédération palestinienne de football.
Mon sentiment est impossible à décrire, c'est incroyable. Depuis la seconde où nous sommes arrivés au Pays Basque, l'accueil a été incroyable. Nous ressentons l'amour de tout le monde, la gentillesse du peuple basque. Pour nous, c'est bien plus que du football. C'est un message de sympathie et d'empathie avec le peuple palestinien. C'est un message fort qui montre que nous sommes tous unis par le football pour la paix. Nous méritons de vivre en tant que nation et de représenter la Palestine de la meilleure façon. C'est la première fois que nous jouons en Europe et c'est une grande reconnaissance pour nous en tant que Palestiniens. Donc oui, c'est un moment historique qui, nous l'espérons, va ouvrir de nouvelles portes, nous permettre d'être reconnus, d'être vus et entendus alors que notre peuple souffre et subit un génocide. On voit le monde entier se lever avec nous contre ce génocide. C'est quelque chose de magnifique à voir.
Against this genocide, and that's something beautiful to see.
Dima Saïd, porte-parole de la Fédération palestinienne de football.
Voilà donc pour ce match amical entre le Pays Basque et la Palestine. Allez, on va finir ce journal des sports avec le Dakar, qui arrive d'ailleurs à l'antenne de SBS Télévision. Ce sera entre le 1er et le 17 janvier. On écoute le directeur du Dakar sur le parcours qui a été révélé cette semaine. Il avait de grosses ambitions sur ce parcours. On l'écoute.
Wow, chaque année, on essaie de se réinventer. On y arrive assez bien, d'ailleurs, jusqu'à maintenant. L'idée, cette année, l'an dernier, on avait un Dakar qui était plus difficile la première semaine que la seconde. Cette année, on a voulu essayer d'équilibrer les deux semaines avec un peu le même contenu chaque fois. Donc, première semaine, on a parlé la marathon avec le fameux bivouac refuge. Il y en a une aussi en seconde semaine. Il y a une étape de dune en première et une en seconde qui seront des étapes clé, donc la sixième, c'est un gros morceau, ensuite, et beaucoup de kilomètres. En fait, c'est vrai que c'est une édition avec un fort kilométrage, c'est une épreuve d'endurance et on essaie vraiment de jouer là-dessus et de pas en faire un sprint, donc il faut maintenir des kilomètres importants pour qu'il y ait une vraie gestion. Mais c'est vrai que je voulais vraiment quelque chose de plus équilibré pour cette année.
C'était donc David Castera, le directeur du Dakar. Une petite souris me dit que le Dakar, on en reparlera peut-être beaucoup à l'antenne de SBS en français. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Dès
décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillis raisins de Corinthe et pêche rubis, marcher, courir, nous est un peu ici. La porte joliment peinte, on tombera dessus. Suivre une trace, une empreinte, nous pouvons, ma fille.
C'était un extrait de la chanson Le Labyrinthe par Feu Chatterton. Allez, on passe à l'économie avec Nicolas Perpich. On y parle des avancées vers un acier plus écologique et aussi de l'action lancée par une banque australienne contre Meta. Vous allez tout découvrir.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Allez, comme chaque semaine, on va parler d'économie, notre rubrique économique avec notre spécialiste en la question, Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Alors on va parler de quelque chose qui est très intéressant, l'acier vert, qui est un produit qui pourrait être essentiel pour la décarbonisation. Alors c'est une spécificité un peu étrange oui. Si on parle d'acier, mais un acier vert, on est encore loin de le fabriquer en masse, hein, c'est ça?
Oui, voilà, c'est une idée qui pourrait beaucoup donc aider à la décarbonisation. Et l'idée vraiment, c'est de créer de l'acier qui est produit sans émission de CO2. Donc c'est en utilisant vraiment des énergies renouvelables. Et ça veut dire que c'est beaucoup moins polluant et ce serait énorme parce que évidemment on produit énormément d'acier autour du monde chaque année et ça contribue énormément à la pollution. Donc voilà, l'idée c'est d'en faire sans de CO2. Et vraiment la question c'est qu'est-ce qu'on utilise pour brûler ou pour fondre l'acier? Donc on trouve des alternatives au charbon. Et là, il y a par exemple des idées d'utiliser des graines comme le riz, le canola, ce qu'on appelle les biomasses. Et l'idée, c'était que Rio Tinto, la compagnie minière, voulait construire un centre de recherche et développement de cet acier vert en Australie-Occidentale, à Kwinana, pour 217 millions de dollars. Et donc, les gouvernements ont tous dit « c'est formidable, ça va nous aider à arriver à net zero, ça pourrait avoir un effet global autour du monde, en Chine, etc. » et pour les compagnies. Et donc, c'est pas que Rio Tinto qui fait ça. C'est en développement vraiment autour du monde, mais malheureusement là, Rio Tinto vient d'annoncer qu'ils vont annuler ce projet parce que bon, franchement, c'est pas prêt. Ils sont pas prêts. Ils savent pas comment construire le four pour la fabrication de l'acier. C'est une technique très spécialisée. Et en vrai, le concept est loin d'être prêt.
Donc sur le papier, ça fonctionne. Dans la réalité, ça a l'air beaucoup plus compliqué.
Voilà, on n'est pas encore là. Il faut encore pas mal de travail. Donc c'est un coup dur pour Rio, mais pour les gouvernements aussi, pour leur plan de décarbonisation. Mais bon, au lieu de ça, Rio va investir à peu près 35 millions de dollars pour un autre centre de recherche par une autre compagnie qui s'appelle Calix. Et là, ils vont essayer de faire de l'acier vert avec de l'hydrogène. Donc, ça serait la matière qu'on va utiliser pour brûler le minerai de fer pour le transformer en acier. Donc, tout ça, c'est assez théorique encore, mais il y a pas mal de... Bon, c'est prometteur.
Est-ce que je peux faire l'avocat du diable là et de dire... Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de nous enfumer quand même, un peu comme on avait eu à l'époque avec le clean coal, vous vous souvenez?
Ah oui, le clean coal, le green coal, oui, tout à fait, oui. Sauf que là, peut-être... C'est
l'avenir nous le dira, vous direz.
C'est peut-être ça. La différence peut-être, c'est que bon, le charbon, on n'en a pas. Au long terme, on peut trouver des remplacements. Pour l'acier, pour le fer, si on veut construire des ponts, des avions, des voitures, des immeubles, on aura besoin d'acier, on aura besoin de fer, et il faut qu'on trouve une façon de le fabriquer en produisant moins d'émissions. Ça, c'est sûr. Donc c'est le but. c'est le but, c'est l'idée, mais c'est pas facile.
D'accord. C'est intéressant. En tout cas, c'est une affaire à suivre sur la question. Alors, on va passer à notre deuxième sujet. Et l'un PDG d'une banque, notamment la Westpac, qui tape du poing sur la table contre Meta. Meta, vous savez peut-être, c'est la compagnie qui est propriétaire d'Instagram, de WhatsApp et également de Facebook.
Voilà, tout à fait. Donc, Meta, Facebook, ils sont énormes. Donc, c'est rare qu'on voit des gens ils sont rarement critiqués. Bon, c'est pas vrai qu'ils sont rarement critiqués, mais c'est assez rare de voir quelqu'un d'autre dans le monde des affaires les attaquer si fortement. Mais là, il y a le PDG de Westpac, Anthony Miller, qui lui témoignait au Parlement en Australie, devant le Economics Committee, et il a dit que bon, il y a des vrais problèmes avec Facebook, avec Meta, parce que en fait, il continue à laisser faire sur Facebook des ventes de comptes en banque illégales. Mais pas seulement ça, aussi il dit que selon lui, Facebook fait des milliards de dollars chaque année en bénéfices à travers des pubs pour des arnaques. Et moi j'en ai vu sur Facebook, je suis sûr des choses qui sont sûrement des arnaques. Et il dit que selon lui, Meta et Facebook n'ont pas l'air très intéressés d'arrêter ça, d'empêcher ces arnaques. Il dit que Meta a fait 16 milliards de dollars en bénéfices de ce genre de pub autour du monde l'année dernière. Mais il dit que donc chaque fois que la banque Westpac voit qu'il y a un problème avec ce genre d'arnaque ou que leurs clients de Westpac sont frappés directement et perdent de l'argent, la banque sonne l'alerte avec Facebook et les autres réseaux sociaux. Mais la réponse n'est pas toujours idéal. Donc là, il disait aux parlementaires que ce serait mieux de mieux réglementer ce sphère, de faire quelque chose pour obliger Meta ou Facebook à agir. Et il dit que bon, en même temps, Westpac fait des choses, prend la chose en main. Un peu tout seul. Ils ont développé un programme qui s'appelle Safer Pay, qui, selon lui, a empêché presque 700 millions d'être arnaqués de leurs clients. Et ça veut dire que avant que les clients payent quoi que ce soit à une arnaque, leur compte en banque leur pose plusieurs questions pour être sûr que c'est pas un scam. Donc, c'est un peu une uphill battle, on dirait en anglais. C'est pas facile quand t'es une banque en Australie et tu t'essayes de faire bouger une compagnie aussi énorme que Facebook.
Absolument. Et ça, ça va poser encore plus de questions à l'avenir. Merci Nicolas d'avoir décrypté ces deux sujets pour nous.
Merci Christophe.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Juste après la foudre, quand l'orage a cessé, cette odeur de poudre, il est en retour où tu t'es noyé. Et j'attends tous les jours que reviennent les beaux jours étrangement légers.
La chanson Le retour des beaux jours, chantée par Vanessa Paradis, bien sûr, vous avez sûrement reconnu sa voix. Nous avons rencontré le réalisateur Guillaume Ribault, venu présenter son documentaire « Je n'avais que le néant » au Festival du film juif en Australie. Il y dévoile les coulisses des rushs du chef-d'œuvre Shoah et ravive la mémoire de Claude Lanzmann pour mieux transmettre cette histoire aux nouvelles générations. Interview.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien aujourd'hui, à l'occasion du Festival du film juif qui se déroule à Melbourne, on a le plaisir d'avoir Guillaume Ribault avec nous. Il présente un film qui est donc au festival en anglais, c'est All I Had Was Nothingness. En anglais, ça s'appelle Je n'avais que le néant. Bonjour et merci de nous accorder un peu de temps aujourd'hui.
Merci pour votre accueil.
Ce film, il est marquant. C'est un film. Décrivez-nous un petit peu l'histoire, parce que vous vous êtes replongé dans une œuvre mémorable, le film Shoah de Claude Lanzmann, et ces 220 heures d'images inédites que vous avez explorées pour faire votre film.
Oui, c'est ça. En fait, le projet de ce film est né en fait d'une ancienne lecture des mémoires de Claude Lanzmann qui s'appelle Le Lièvre de Patagonie. En anglais, c'est The Patagonian Hare. Et la rencontre ensuite quelques années après. Avec les 220 heures de Rush qui sont conservées sur le site de l'Holocaust Museum à Washington. Et j'ai eu immédiatement l'envie de faire résonner ces mots et ces images pour raconter l'histoire, l'aventure même, je pourrais dire, de la réalisation du film Shoah de Claude Lanzmann.
Comment on s'attelle à autant de Rush, autant d'images, un sujet tellement important mais tellement aussi compliqué? Comment on s'y prépare?
En fait, moi j'y étais préparé parce que depuis 27 ans, je travaille sur le thème de la Shoah en tant que photographe d'abord, photographe de presse, photographe auteur avec des livres, des expositions, des publications dans les journaux du monde entier et des enquêtes sur le terrain en Ukraine, en Biélorussie. Donc j'avais déjà un background historique assez bon. J'avais évidemment vu Shoah. Et je crois que c'est pour ça que j'ai réussi à faire ce film aujourd'hui, parce que j'avais toute cette préparation finalement depuis tant d'années. Et puis comment je me suis préparé, c'est assez simple. Il faut se confronter au rush et plonger dedans. Donc 220 heures de rush à regarder, c'est 220 heures fois 3 ou 4 pour pouvoir ensuite prendre des notes, mettre des codes couleurs, des marqueurs sur chaque chose intéressante pour ensuite pouvoir commencer une écriture scénaristique et filmique précise et pour être préparé avant d'arriver en salle de montage.
Ça vous a permis d'avoir une autre lecture sur l'œuvre de Claude Lanzmann, sur son film, parce que le film en lui-même, il est très long d'ailleurs de Claude Lanzmann, mais est-ce que vous, ça vous a permis d'avoir une autre lecture de ce que Claude Lanzmann a fait pour sortir ce film déjà à l'époque?
Oui, le film de Claude Lanzmann dure 9h30, donc c'est vrai que c'est une durée assez exceptionnelle. Mais en fait, je n'en ai pas une nouvelle lecture. Je dirais que j'ai découvert ce que j'avais découvert dans les chapitres du Lièvre de Patagonie, ses mémoires, où il expliquait donc la réalisation du film. Et c'est ça que j'ai découvert dans les rushs, c'est comment un homme, à partir du néant, réussi à créer une œuvre monumentale qui est depuis 2023 enregistrée à la mémoire du monde de l'UNESCO. Et c'est surtout ça, et j'espère que c'est ce que mon film va faire découvrir aux spectateurs.
Est-ce qu'il faut avoir vu le film Shoah pour pouvoir accéder à votre film?
Je crois que non. Je crois que mon film s'adresse évidemment aux spécialistes, aux exégètes, à ceux qui ont vu Shoah. Mais nous en avons fait l'expérience déjà avec, par exemple, des lycéens qui ne connaissaient pas Claude Lanzmann, qui n'avaient pas vu le film Shoah. Et je crois, au vu des réactions des différents publics auxquels on a montré le film, que Je n'avais que le néant peut être une porte ou un pont vers le film Shoah.
Est-ce que votre film est montré dans les écoles? Parce que Shoah, il a beaucoup été montré dans les écoles aussi pendant un moment. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Moi, je sais que je l'ai vu en cours d'histoire. C'était un moment poignant, énormément chargé d'émotions et une façon pour que les élèves, en tout cas de ma génération, puissent comprendre l'envergure du drame que c'était. Est-ce que votre film aussi a un caractère éducatif et peut-être peut être montré dans les collèges aussi également?
Alors, dans un premier temps, le film va sortir en salle et va passer à la télévision française, mais il va aussi sortir dans une nouvelle édition d'un Blu-ray, accompagnant le film Shoah et deux autres films de Claude Lanzmann. Donc, ensuite, ça c'est toute une histoire des distributions, etc. Pour revenir sur la diffusion du film Shoah dans les collèges et les lycées, en fait, ce sont des extraits qui ont été choisis, c'est 6 extraits de Shoah, parce qu'il est impossible de montrer 9h30 à des élèves, puisque ça dépasserait le quota d'heures sur le sujet. Donc, ce sont des extraits très précis. Et peut-être que le mien, par son format, sa durée et... on va dire, sa réalisation peut permettre à des lycéens d'accéder ensuite au film Shoah. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. C'est moi, mon film accompagne Shoah. Je suis sous l'aile protectrice de ce film, et j'espère que avoir respecté l'œuvre originale avec le mien.
Vous avez rencontré les ayants droit du film, les ayants droit de Claude Lanzmann, les descendants, les gens qui l'ont connu à l'époque. Nous, on l'avait reçu à l'époque, donc c'était bien avant moi, hein, mais mes collègues l'avaient reçu dans l'émission. Et ça reste une des interviews marquantes de l'histoire de notre programme.
Alors moi, non, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer Claude Lanzmann. Je dis la chance, je me demande même si ça aurait été une chance que je l'ai rencontré, parce que peut-être n'aurais-je pas fait le même film si j'avais été influencé par sa forte présence intellectuelle et physique. Moi, je n'ai été en intimité avec Claude Lanzmann qu'avec les rushs, les 220 heures où je l'ai découvert. Je pense montrer un Claude Lanzmann que les gens ne connaissent pas, en fait, parce que c'est le Claude Lanzmann d'avant la sortie de Shoah. Donc, moi, j'ai vraiment découvert, et je l'ai montré à beaucoup de personnes, ce film déjà en festival et dans d'autres projections. Et les gens découvrent vraiment un Claude Lanzmann qui n'est pas encore le Claude Lanzmann d'après 1985 et la sortie de Shoah. Et pour répondre à vos questions sur les personnes que j'ai rencontrées, j'ai eu la chance de rencontrer Corinna Koolmaas, qui était l'assistante, la première assistante de Claude Lanzmann pendant 12 ans sur la réalisation du film. Donc, il m'a beaucoup parlé de choses et m'en a confirmé d'autres. Et j'ai eu évidemment l'accord dont je ne pouvais me passer de Madame Dominique Lanzmann, qui est la légataire de la morale de l'œuvre de son mari. Donc, elle est avec les films d'Aleph, coproductrice avec les films du Poisson pour ce film. Donc voilà les personnes que j'ai rencontrées. Mais j'ai fait ce film sans me nourrir non plus trop de choses extérieures. Moi, ma matière première, c'était les rushs, et je m'en suis tenu à ça, les rushs et les mots de Claude Lanzmann.
Et vous avez eu des surprises dans ce que vous avez vu. Moi, j'ai vu quelques extraits, parce que j'ai pas eu la chance de voir votre film encore. J'irai le voir au festival, mais il y a des moments où vous rencontrez les voisins de quelqu'un qui conduisait une machine de guerre qui a exterminé les juifs, et il y avait ce moment où il discute avec ses voisins qui veulent rien savoir, qui savent tout mais qui veulent rien savoir. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué dans ce que vous avez vu et découvert dans ces rushs?
Oui, évidemment, parce que Shoah fait 9h30, mais 220h, il y a évidemment beaucoup de choses, beaucoup de pépites et beaucoup de moments, des séquences qui m'ont donné envie de faire ce film. Pour revenir sur la séquence dont vous parlez, je pense que c'est celle qui est dans la bande-annonce. En fait, Claude Lanzmann, là, va frapper chez un ancien nazi qui était conducteur d'un camion à gaz, et les voisins, dans un déni absolu, font comme si leur voisin était quelqu'un de très gentil, que toute cette histoire ne les intéressait pas. Donc là, on découvre un Claude Lanzmann qu'on ressent dans Shoah, mais là vraiment on voit vraiment l'homme qui va frapper aux portes, l'homme qui ne recule devant rien, et vous le découvrirez dans le film, vous verrez, il prend une nouvelle identité, il trompe les nazis, parce que pour leur parler, pour obtenir la vérité, il dit il faut apprendre à tromper les trompeurs. Donc oui, j'ai vraiment découvert des choses très belles, très intéressantes, inédites, et surtout il y a quelques séquences qui m'ont absolument convaincu qu'il fallait que je fasse ce film. Je vais pas les dévoiler, je vais laisser les spectateurs du festival les découvrir, mais il y a vraiment des moments extrêmement forts, et je crois que c'est une des belles facettes de mon film, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de faire découvrir un Claude Lanzmann différent et d'autres lieux, d'autres personnages, tout en respectant l'œuvre originale. Vraiment, ça, j'y tenais, je ne voulais pas faire un autre film, je suis dans la filiation, la radicalité de l'œuvre de Claude Lanzmann.
Ouais, tromper les trompeurs, c'est intéressant, parce que c'est aussi comme ça que Klaus Barbie a été confondu à l'époque, donc c'est intéressant comme similitude ici. Quelle a été la réception pour votre film en France notamment?
Alors le film n'a été montré en France qu'une fois officiellement. D'accord. au festival Lumière à Lyon, qui est un très très beau festival,
ouais, tout à
organisé
fait, ouais.
par Thierry Frémaux, le directeur du festival de Cannes. Le film a eu une très belle histoire internationale depuis le mois de février, où il a été sélectionné à la Berlinale en février 2025. Je suis ensuite allé à Toronto, à Telluride dans le Colorado, je vais aller à Turin, il y a une avant-première à l'UNESCO en novembre. Ce qui est très intéressant, c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller dans différents pays. J'espère qu'il sera reçu en Australie également. D'une manière, en fait, chacun s'approprie mon film selon sa propre culture, selon son propre ressenti. Et ça, c'est assez gratifiant, que les personnes soient âgées, victimes, descendants, simples historiens amateurs, public lambda, tout le monde trouve quelque chose dans ce film. Je vous parlais de jeunes lycéens tout à l'heure. Ce qu'ils ont aimé dans le film, c'est le côté road movie, enquête policière, quand on voit Lanzmann aller enquêter, frapper aux portes, et le rythme du film aussi. Donc, Pour l'heure, le film est, j'en suis vraiment très ravi. Ça, on peut jamais le prévoir, mais l'accueil est vraiment très bon.
Et juste pour conclure, c'est vrai qu'on a parlé au tout début de cette interview de comment vous vous êtes mis dans l'histoire et vous êtes mis dans les rushs. Comment on s'en sort de ça aussi? Parce que c'est une œuvre tellement marquante, qui ne peut que vous prendre au trip. Je serais tenté de dire comment on sort d'un projet comme celui-là, si tant est quel que vous soyez sorti du projet.
Comme je vous le disais en début d'interview, ça fait 27 ans que je travaille sur le thème de la Shoah. Donc en fait, cette question de comment on en sort, je me la pose depuis très très longtemps. Peut-être que ce film va me permettre d'en sortir, peut-être. Donc là, je réfléchis beaucoup. Je suis tout à fait en ce moment dans la promotion et dans l'accompagnement du film. Mais j'étais préparé à faire ce film et peut-être que pour moi, il va être une porte de sortie pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je ne sais pas encore.
D'accord. Bah, écoutez, je ne pense pas qu'on puisse en dire beaucoup plus, sauf qu'il faut vraiment aller voir ce film parce que c'est un des éléments clés du festival du film juif. Donc à Melbourne, Guillaume Ribault, merci de nous avoir accordé un peu de temps aujourd'hui. Et vraiment, je tiens à dire que j'ai vraiment envie de le voir en complet et il faut vraiment aller au festival pour le voir. Merci.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Voilà pour l'interview de Guillaume Ribault. On vous propose une autre interview à présent, celle avec le pianiste français Richard Clayderman. À 72 ans, il signe son grand retour en Australie avec une tournée exceptionnelle. 3 dates, 3 lieux. Brisbane demain, Melbourne samedi et Sydney dimanche.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On reçoit une légende sur les ondes de Radio SBS, le pianiste Richard Clayderman. Monsieur Clayderman, bonjour.
Bonjour, je suis très content de vous parler aujourd'hui. Je suis à Paris en ce moment et puis je suis très content de venir vous voir bientôt en tout cas.
Nous aussi, on est très content de vous parler ou en tout cas de vous reparler puisque vous vous êtes déjà exprimé sur les ondes de Radio SBS. C'était en 2017, il y a 8 ans déjà. Et vous nous expliquiez que c'était à l'époque votre 3e visite en Australie mais que ça faisait plus de 20 ans que vous n'étiez pas venu. Donc voilà, on est presque une décennie plus tard maintenant.
Très bien.
Richard Clayderman, une légende, on le disait, hein, 200 albums, plus de 85, presque 90 millions d'exemplaires vendus. Vous entamez donc une tournée australienne, on est très heureux de vous recevoir sur nos terres australiennes. Ça vous fait quoi de revenir ici?
Alors déjà, je suis touché parce qu'après tant d'années, donc je suis très content de revenir. Je continue toujours à faire des concerts à travers le monde et puis de revenir en Australie, donc c'est particulièrement touchant. J'espère que le public ne m'a pas oublié. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé de faire ces concerts à Melbourne, à Brisbane et à Sydney. Voilà.
Bah, justement, en parlant du public, s'il veut venir vous voir, est-ce que vous savez les dates où vous êtes et dans quelle ville?
Oui, alors tout à fait. Alors à Brisbane, donc je serai au Royal International Convention Center le vendredi 21 novembre. Et à Melbourne, je serai donc au Melbourne Town Hall le samedi, le lendemain, le 22 novembre. Et Sydney le 23 au Sydney Opera House. Voilà. Donc c'est 3 belles dates, 3 grandes villes très importantes pour moi.
Vous n'aimez pas l'improvisation, vous l'avez dit dans vos interviews, vous aimez quand c'est bien rodé. Et là, vous allez présenter Timeless Romance, mais vous allez aussi ajouter des titres australiens. Vous avez préparé ce spectacle pendant longtemps?
Oui, c'est-à-dire que bon, j'ai mon répertoire qui tourne déjà depuis pas mal d'années, donc je joue toujours mes morceaux originaux avec lesquels j'ai eu pas mal de succès, comme Ballade pour Adeline, A comme Amour, Souvenir d'enfance, Mariage d'amour, etc., etc. Et puis je reprends éventuellement différents thèmes très connus. Qui font partie de différents medleys et ça me tient à cœur parce que le public réécoute des mélodies aussi qu'ils connaissent et puis toujours arrangées à ma façon, toujours le piano qui est très important mais avec des beaux arrangements, j'espère.
À l'aube de vos 50 ans de carrière, vous composez encore? Il y a des nouveaux titres?
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a toujours des albums qui sortent. Alors, il y a beaucoup d'albums de compilation. Et puis là, je viens de terminer un album avec des morceaux originaux, donc composés par moi et puis par mon collaborateur et arrangeur et ami qui s'appelle Marc Minier. Donc, voilà. Donc, il y aura un album de musique originale qui sortira bientôt dans les mois à venir. En tout cas, il est prêt. tout dépend maintenant de ma maison de disques qui décidera de le sortir à tel ou tel moment. Voilà.
Comment vous faites pour encore avoir de l'inspiration ? Est-ce que c'est le public qui vous inspire ? Est-ce que c'est l'évolution qu'il y a eu sur les 50 dernières années ? Où est-ce que vous puisez encore aujourd'hui votre inspiration ?
Alors j'essaie toujours d'avoir cette énergie et puis j'adore toujours le piano, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est avec le piano que j'ai commencé ma carrière, donc je suis très respectueux envers ce bel instrument. Et puis cette énergie, je laisse, et effectivement il y a toujours l'amour du public qui est toujours là et qui répond toujours présent, et curieusement le public est très jeune parfois dans certains pays. Parce qu'il y a toujours tous ces jeunes enfants qui commencent le piano, qui commencent à étudier le piano et qui écoutent ma musique. Et donc, je suis un petit peu un élément un peu positif pour eux. Donc, ça me touche encore. Donc, c'est pour ça que je continue. Et puis, il y a toujours cet amour de la mélodie, des arrangements. Et puis, voilà, le public qui répond toujours présent. Donc, ça m'aide énormément à continuer à exister.
On entend très nettement dans votre voix la passion. Vous arrivez à prendre toujours autant de plaisir ? Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit que vous en aviez marre ?
Oh non, pas du tout. Et puis vous voyez, c'est vrai que maintenant j'approche de mes 72 ans et je suis toujours, j'espère continuer encore pas mal d'années comme ça. Non, j'ai toujours cette passion. Et puis encore une fois, c'est extraordinaire pour un artiste de pouvoir continuer après tant de décennies, continuer à voyager, continuer à aimer ce qu'on fait. Donc non, j'ai toujours cette énergie et ça, c'est très important pour moi.
Vous avez évoqué la jeune génération. C'est quelque chose que vous souhaiteriez être une forme de mentor pour les jeunes pianistes ?
Oui, un petit peu. Et vous savez que pour mes concerts en Australie, je vais inviter des jeunes pianistes sur scène qui joueront un morceau avec moi. Donc, c'est toujours très touchant pour moi, pour eux, de se retrouver sur une scène, une belle scène, de se retrouver devant un public. Et donc, c'est très souvent que je fais ça, que dans beaucoup de pays. Et donc, en Australie, ça sera le cas.
En 2017, mon collègue Christophe Mallet vous avait posé une question et vous avait demandé quelle était la vie de Richard Clayderman ? Et vous aviez répondu que c'était vos concerts en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. C'est toujours le cas, 8 ans plus tard ?
Ah oui, c'est toujours le cas. Et de plus en plus, c'est-à-dire que voilà, il y a toujours l'Amérique du Sud. Là, j'étais à Lima, j'étais à Quito. Il y aura le Brésil bientôt, vous voyez. Il y a toute l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord également, aux États-Unis, au Canada. Et puis, bien sûr, toute cette partie Asie où le Japon et la Chine. Et puis bientôt vous, voilà. Donc, je continue de plus belle.
Vous nous avez dit en début d'interview que vous étiez à Paris. C'est presque une exception, en fait.
Oui, c'est-à-dire que je rentre entre toutes ces tournées, alors bien sûr, parce que j'ai toujours besoin de me ressourcer un petit peu à la maison. C'est toujours un petit peu après mes tournées, je rentre toujours chez moi et puis le temps de refaire les bagages, repenser à tout pour une nouvelle tournée, repenser à un autre répertoire, retravailler des nouveaux morceaux et là ces derniers temps, donc j'étais sur cet album qui sortira bientôt. Voilà.
Vous arrivez parfois à déconnecter, à ne pas penser musique ?
Pas vraiment. Non, pas vraiment. Et puis moi, je suis un laborieux, je travaille toujours mon piano, vous voyez. Là, en attendant que vous m'appeliez, j'ai travaillé mon piano. Et puis effectivement, quotidiennement, je travaille mon piano. Et même quand je suis en tournée, j'ai toujours un piano qui me suit dans les hôtels. Et donc, un piano numérique, en tout cas, pas un piano acoustique.
On imagine bien.
Voilà. Donc, c'est plus facile, mais j'ai toujours besoin de travailler. C'est difficile pour moi de décrocher, puis j'ai besoin de travailler.
Pour revenir à cette interview de 2017, vous disiez à l'époque que la France, justement, en comparaison avec l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, vous disiez que la France était un peu à la traîne. Est-ce que vous le pensez encore ?
Non, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses maintenant en France, alors musicalement, hein, alors donc j'écoute pas mal de choses. C'est toujours très intéressant. Ce qui se passe, j'ai peut-être dit ça parce que effectivement, je faisais des concerts à travers le monde et je sentais que en France, c'est-à-dire que si on vous décidait de faire une tournée en France ou de décider de faire des concerts, ça vous prend énormément de temps. Il faut faire énormément de promotion, se consacrer presque pendant une année à votre future tournée française. Donc, c'est un peu compliqué, hein, surtout moi qui tourne à travers le monde. Donc, c'est peut-être pour ça que je disais ça, mais maintenant, non, je sens que la France est super, et il se passe beaucoup de choses, et surtout musicalement, voilà.
Donc là, une tournée en Australie, après, vous l'avez dit, la sortie d'un nouvel album encore. Vous savez déjà ce qui va se passer ensuite, après ça ?
Oui, ensuite, donc après cette tournée, je pars pendant plus de 2 mois en Chine et ensuite j'ai toute une série de concerts en Europe. Je vais après aller de nouveau en Amérique du Sud, au Chili et puis des concerts aux États-Unis. Voilà. Donc une année qui sera bien chargée et puis j'espère revenir, si tout se passe bien en Australie, revenir de nouveau, mais ce coup-là un peu plus vite.
Pas 8 ans de pause cette fois.
Non, voilà, non, on va essayer de revenir assez vite si les concerts se sont bien passés et puis retrouver mon public australien.
Eh ben, en tout cas, on est très heureux de vous recevoir ici en Australie, Richard Klederman. Vous serez à Brisbane, à Melbourne et à Sydney entre le 21 et le 23 novembre.
Tout à fait. Écoutez, je vous remercie 1000 fois. Merci d'avoir fait cette interview en français. Ça m'a énormément aidé. Et puis, je donne rendez-vous à tout mon public pour ces 3 concerts qui, j'espère, se passeront bien.
Sans aucun doute. Merci, Monsieur Klederman.
Merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour votre appel. Merci. Au revoir.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Je vous parle d'un temps. La bohème. Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire.
Si se sentir bien en vie et gagner quelques bières. L'inspiration était partout, je pouvais souvent la voir déborder. De notre innocence, de notre nonchalance, de notre vie débridée.
C'était Grand Corps Malade qui rend hommage à Charles Aznavour, bien sûr, avec sa chanson « À chacun sa bohème ». Il est 13h, passé de 58 minutes sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. L'Australie n'accueillera pas le sommet international sur le climat en 2026, annonce faite par Anthony Albanese. Aux États-Unis, le Congrès a voté pour la publication du dossier Epstein. Il ne manque plus que la signature de Donald Trump. De nouvelles frappes mortelles à Gaza malgré le cessez-le-feu. Et enfin en sport, l'Italie n'est pas encore qualifiée pour le mondial de football. Les joueurs devront passer une nouvelle fois les barrages. C'est la fin de cette émission. Messieurs, dames, merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.au/french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec Le Français, c'est samedi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un très beau jeudi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.